Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM et de ses partenaires. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que 4 ans à l'homme, sous-entendu 4 ans d'existence. Vous avez certainement entendu 100 fois cette prophétie attribuée à tort ou à raison à Albert Einstein. Pour ma part, je me souviens de l'avoir entendue adolescente et de m'être demandé si les espèces vivantes, qu'elles soient animales ou végétales, devaient toujours être envisagées du point de vue des services qu'elles pouvaient rendre ou pas à l'espèce humaine. La disparition des abeilles n'est-elle pas une catastrophe en soi? Fallait-il qu'elle entraîne la disparition des hommes pour devenir digne de notre intérêt? Et dans ce cas, combien d'espèces disparaissent dans l'indifférence parce qu'inutiles à nos yeux? En poussant encore un peu, ma petite tête d'adolescente a fini par forger une autre pensée. Et si nous, les hommes, venions à disparaître, quelle autre espèce emporterions-nous avec nous dans notre chute? Ceci étant dit, les abeilles n'ont pas encore totalement disparu, même si leur population, comme celle de tous les pollinisateurs et de tous les insectes en général, connaît un déclin massif. Cette moindre fréquentation n'est pas passée inaperçue dans le règne végétal, et certaines plantes, délaissées par leurs intrigants ailés, ont dû développer des alternatives pour continuer à se reproduire. Cela semble être une bonne nouvelle, c'en est plutôt une mauvaise. On en parle avec nos invités, ils co-signent cette étude publiée dans la revue New Phytologist sous le titre « Ongoing Convergent Evolution of a Selfing Syndrome Threatened Plant-Pollinator Interaction ». C'était pas facile. Alors, ils se sont intéressés à une fleur, la pensée des champs, et ont constaté qu'en seulement 3 décennies, la plante s'était adaptée à la raréfaction des bourdons en augmentant de 27% son taux d'autofécondation et investissent moins, entre guillemets, sur la séduction de ses pollinisateurs. Autrement dit, moins de production de nectar et des corolles plus petites et moins visibles. Alors, Samson Akokapidol, je ne me suis pas trompée, tout est bon.
C'est parfait.
Alors, vous êtes doctorant à l'université, vous effectuez votre thèse au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Vous êtes premier auteur de ce papier, et c'est aussi votre premier papier, je crois. Et donc, votre thèse porte sur les adaptations rapides et les systèmes de reproduction des plantes. Vous effectuez donc votre thèse sous la direction de notre second invité, Pierre-Olivier Cheptoux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc directeur de recherche CNRS au CEF et vous travaillez au sein du département dynamique et conservation de la biodiversité. Bienvenue à tous les deux dans Allume la science.
Merci.
Elle a le bourdon, si on n'a pas une pensée pour elle.
Ah, oh, c'est joli.
Pour
c'est
réaliser joli. Cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Enfin, notre invitée des 3 dernières minutes sera Géraldine Combs. Elle travaille à la MGEN et elle organise en partenariat avec la faculté d'éducation un mercredi des savoirs sur le thème de la santé mentale des adolescents. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors, donc, pour commencer cette interview, est-ce qu'on peut rappeler brièvement quelles sont les interactions entre les insectes pollinisateurs et les plantes? Alors, Samson.
Bah, du coup, c'est une interaction assez simple. C'est l'interaction à bénéfice réciproque. Donc, les plantes fournissent du nectar et du pollen, qui est de la nourriture pour les pollinisateurs. Et en échange, les pollinisateurs transportent les grains de pollen de plante en plante. Et ça leur permet tout simplement de se reproduire, de faire des graines. Et donc, il y en a un qui transporte les gamètes, donc l'organe, qui, non, les éléments qui permettent de se reproduire, et l'autre qui, en échange, récupère de la nourriture. Voilà.
Alors, donc ces interactions, elles ont un rôle clé dans la diversité des plantes à fleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment?
Du coup, donc, les plantes à fleurs, aussi qu'on appelle les angiospermes, on date leur apparition autour de 150 millions d'années environ, et on considère que c'est la plus grande et la plus belle radiation évolutive qui a eu lieu, qui a produit une diversité assez folle. Et toute la question est de savoir pourquoi il y a une telle diversité de fleurs. On suppose en fait que c'est étroitement lié à l'interaction avec les pollinisateurs, justement, parce que donc, les plantes et les pollinisateurs sont des pressions de sélection les uns pour les autres. Si l'un bouge, le pollinisateur va aussi bouger, et si le pollinisateur bouge, la fleur va aussi bouger. Et donc on pense que comme ça, par des coévolutions, il y a eu pas mal de spéciation et donc pas mal de diversification chez les angiospermes. Et donc on pense vraiment que cette relation est hyper importante, parce que donc, elle serait présente quasiment dès le début, dès l'apparition des angiospermes, et donc elle aurait quasi 150 millions d'années. Et c'est elle qui aurait donné cette si grande diversité, ce si grand nombre d'espèces de plantes à fleurs.
Alors selon quels critères, juste en deux mots, selon quels critères les insectes sont ou non attirés par une fleur? Qu'est-ce qu'ils regardent?
Alors, ça dépend vraiment des insectes, mais en général, ils sont un peu comme nous. Hein. Ils aiment bien les grandes fleurs, assez flashy, et surtout qui produisent des récompenses, que ce soit du nectar ou du pollen. Voilà, dans l'idée, c'est ça.
Alors, 80% de ces plantes, elles dépendent, comme vous le dites, des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Les 20% des plantes restantes, elles font comment, Pierre-Olivier ?
Alors, il y a des espèces qui ne sont pas pollinisées par les insectes, qui peuvent être pollinisées par le vent, par exemple. Mais la particularité des plantes, la majorité des plantes sont hermaphrodites. Donc, elles ont une capacité que n'ont pas les animaux qu'on a l'habitude de voir, les humains, par exemple. C'est qu'en étant hermaphrodites, elles peuvent s'autoféconder. Et donc, il y a une partie non négligeable d'espèces qui sont à quasiment 100% d'autofécondation. Elles se reproduisent toutes seules. Le pollen tombe sur le stigmate de la même fleur.
Et quelles conséquences ça a par rapport à la pollinisation croisée par les pollinisateurs? Ça fait une différence
Alors bien sûr, la grosse différence, c'est que les espèces qui font de l'autofécondation, c'est un régime de consanguinité. Donc ça veut dire que les produits issus de cette fécondation sont consanguins. Et on sait en général, c'est vrai chez tous les organismes, que la consanguinité conduit à des baisses de survie, etc. Alors suivant que c'est fort ou pas fort, ça peut être quand même avantageux pour la plante de faire ça.
Alors, donc, dans votre étude, vous vous êtes penché sur l'attractivité d'une fleur, en particulier la pensée des champs. Il y avait une injonction à utiliser cette plante. Enfin, pourquoi celle-ci ?
Alors, pourquoi celle-ci ? Donc ça, en France, on a la chance d'avoir des conservatoires botaniques qui ont mis en conservation des graines dans les années 80. Au départ, c'était dans des buts de... Enfin, même, c'est leur objectif, dans des buts de conservation. Si jamais l'espèce disparaît à l'échelle régionale, on aura des graines pour la réintroduire éventuellement. Et donc, nous, on ne fait pas vraiment de la conservation, mais par contre, ça nous intéressait beaucoup d'avoir des graines anciennes. On expliquera tout à l'heure en détail la méthode de résurrection. Et donc, on avait à disposition les graines qui étaient conservées dans les conservatoires botaniques. Alors, on a cherché des espèces qui avaient des critères qui nous intéressaient. On voulait des annuels parce que ça voulait dire qu'en 30 ans, on avait 30 générations. Donc, ça maximisait le nombre de générations, donc la possibilité d'évolution. Et on cherchait là une espèce qui avait la capacité de s'autoféconder pour voir si le déclin des pollinisateurs, c'était notre hypothèse, a pu faire bouger ce taux d'autofécondation en fait.
Alors, vous parlez aussi de fleurs chasmogames, c'est ça, Jeff Jury? Sanson, vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Donc en fait, il y a plusieurs types de fleurs, et notamment dans le genre viola, la pensée partait en genre viola, vous pouvez connaître la violette. La violette, elle produit deux types de fleurs, en fait. Elle produit donc les jolies fleurs violettes qu'on a l'habitude de voir, et elle produit aussi des fleurs fermées, qui restent fermées tout le temps, et donc qui vont faire de l'autofécondation de manière obligatoire. Ça, donc ces fleurs qui restent fermées, on appelle ça des fleurs cléistogames. Et donc, on oppose les fleurs cléistogames aux fleurs chasmogames, qui donc sont des fleurs ouvertes et donc disponibles à la pollinisation croisée par des agents comme les pollinisateurs.
D'accord. Alors, autre petite caractéristique de cette pensée des champs, elle est messicole.
Oui, c'est un joli terme. J'aime bien le terme messicole. C'est une fleur des moissons, en fait. Donc, c'est une plante qui pousse dans les champs. Donc on va la retrouver dans des champs de blé pas mal, on la retrouve quelquefois en prairie aussi, dans les champs de colza. Elle est d'ailleurs peu appréciée par bon nombre d'agronomes et d'agriculteurs, mais parce que c'est une adventice des cultures, donc c'est une mauvaise herbe aussi un petit peu. Et donc l'intérêt que ce soit une messicole, c'est aussi qu'elle pousse dans les champs, et il a été montré à l'échelle européenne au moins que les milieux agricoles sont des endroits qui ont connu un déclin des pollinisateurs encore plus important que le reste. Et donc, c'était un bon modèle pour essayer de voir s'il y avait un effet de ce déclin sur l'évolution de cette plante.
Alors, Pierre-Olivier, vous avez évoqué tout à l'heure le terme de résurrection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que c'est que ce principe d'écologie de la résurrection sur lequel il s'appuie également votre étude ?
Alors, l'écologie de la résurrection, c'est un terme qui a été inventé, on va dire, par les Américains, enfin les biologistes américains. Il est un petit peu abusif. En fait, dans l'écologie de la résurrection, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des structures qui sont capables de se conserver longtemps. On ne ressuscite rien. Alors, dans notre cas, dans le cas des plantes, on va utiliser les graines. Et on sait que les graines sont capables de rentrer en dormance. Et en fait, à travers des conditions optimales de conservation, le froid, faible humidité, on peut augmenter cette dormance et donc avoir des graines qui se conservent 40, 50 ans, 100 ans éventuellement, ça dépend un peu des espèces. Hein. Il y a des espèces qui sont plus ou moins aptes à cette dormance.
Et quel intérêt pour vous, dans le cadre de cette étude, d'utiliser ce principe-là, justement ?
Alors, l'intérêt, il est évident quand on fait de l'évolution à court terme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un laboratoire en 2023, comparer des plantes de 1990, ou plutôt, si on a des graines de plus tôt, et de 2023. Donc, on a face à nous les descendants, les ancêtres et les descendants de la même population. Donc ça, c'est magique pour le biologiste de l'évolution, quoi.
Alors, les graines comme les plants venaient de région parisienne. Par contre, la partie expérimentale, elle a été menée à Montpellier, donc au campus Bayarguet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérimentation ? Combien de plants vous aviez ? Est-ce que c'était en plein champ ? Est-ce que c'était en serre ?
Du coup, on est effectivement allé en région parisienne parce que c'est là que les conservatoires botaniques possédaient avaient récolté les graines, en fait, dans les années 90-2000. Donc, on est retourné exactement dans les mêmes champs en 2021. On est retourné exactement au même endroit et on a récolté quelques plantules toutes petites en février. Et on a ramené tout le monde, on avait fait germer les graines ici à Montpellier, on a ramené tout le monde à Montpellier et effectivement on s'est mis en plein champ, donc à Bayarguet, sur le campus de Bayarguet. Et on a fait pousser 32 plants par population, donc c'est un peu compliqué parce que donc on a 4 localités différentes, avec chaque fois une population ancestrale, une population descendante.
Ce qui vous permet du coup de neutraliser aussi la dimension environnementale.
Et donc
ça,
voilà, c'est ça. Ouais. Les faire pousser ensemble permet de neutraliser l'effet environnement et pour être sûr que ce qu'on compare, en fait, ça va être la différence génétique et pas des différences environnementales. Parce qu'on pourrait imaginer que l'année 2021 était une mauvaise année et donc les plantes étaient plus petites, plus ceci, plus cela, parce que sécheresse par rapport aux plantes des années 90-2000. Donc on voulait enlever cet effet-là pour vraiment voir l'évolution. Voilà. Et oui, donc on avait au total 252 plantes en première génération à Bayarguet à suivre. C'était déjà pas mal de boulot.
Oui, j'imagine.
et d'abord, vous avez cultivé ce que vous appelez une génération de rafraîchissement. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, c'est ça. Donc c'est cette première génération qu'on a fait en plein champ à Bayarguet. Et ça nous permet de produire des graines, en fait, dans un environnement commun. Parce que donc il y a ce qu'on appelle les effets maternels. Alors c'est un peu technique, c'est l'idée que si votre mère est bien nourrie, vous serez un gros bébé. Et si vous êtes un gros bébé à la base, vous avez plus de chances d'être plus grand, plus costaud, plus solide, etc. Donc pour éviter encore une fois cet effet maternel, on a mis tout le monde dans les mêmes conditions pendant une première génération. Et on a récolté les graines de cette première génération en mêmes conditions. Et donc on s'attend à ce que les effets maternels soient à peu près les mêmes pour tout le monde. Et cette deuxième génération, après on a fait une génération test avec ces graines qu'on avait récoltées, et qu'on a fait en serre cette fois-ci, pour être encore plus contrôlé, encore plus gérer encore mieux les choses, avec donc 5 enfants par mère, en gros. Et donc ça nous a donné les 800 plantes à suivre après en deuxième génération.
Alors, donc justement, dans ce suivi, vous avez mesuré précisément des caractères morphologiques. Lesquels ?
Donc, on a mesuré pas mal de traits floraux. Donc, on a mesuré, par exemple, la taille de la fleur, sa largeur, le nombre de guides nectarifères, qui sont des petits panneaux d'indication pour montrer aux pollinisateurs où est le chemin vers le nectar. Mais on a aussi mesuré quelques traits, qu'on va dire, végétatifs. On a mesuré, par exemple, la biomasse, la taille de la rosette, la taille des feuilles, des choses comme ça. Donc, ouais, c'était beaucoup de suivi, parce qu'on a quand même mesuré 5 fleurs par plante, donc quasi 4000 fleurs
mesurées. Sans vouloir mesurer 7. J'ai dit 5.
Alors, petit détail amusant, vous dites que toute l'expérience a été faite par un seul expérimentateur. Donc, vous, justement, pour limiter l'effet expérimentateur, qu'est-ce que c'est ?
Bah, du coup, c'est ça. Le problème, c'est que si vous avez deux personnes qui mesurent, chaque personne peut avoir un biais un peu différent. Il y a des personnes qui ont tendance à surestimer, d'autres à sous-estimer. Et donc, si on a deux personnes qui mesurent en parallèle, on ne sait pas si ce qu'on voit, c'est un effet de la personne qui mesure ou un vrai effet de différence de taille entre ces plantes. Donc, pour éviter ça, effectivement, j'ai tout mesuré moi-même.
Et donc, alors, les résultats, qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous avez observé, alors ?
Alors, bah, les résultats... Bon, la première chose, c'est qu'on a mesuré le taux d'autofécondation réalisé sur les échantillons qu'on avait, les anciens et les actuels. Ça, on peut le faire avec des marqueurs moléculaires, c'est une des techniques assez classiques, où en fait, on va mesurer l'identité sur les deux chromosomes, est-ce que c'est le même gène ou pas le même gène. Et à partir de cette estimation, on peut avoir une estimation propre du taux d'autofécondation. Première chose qu'on a faite, et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé d'une moyenne de 50% d'autofécondation à 27%. À ce stade, on ne sait pas, puisque c'est des mesures sur le terrain, on ne sait pas encore si ce sont des effets de l'environnement, il y avait moins de pollinisateurs en 2021 qu'il y en avait en 90, ou si la plante a évolué. À partir des expériences en serre qu'a décrit Sanson, là, on peut mesurer les caractères et voir l'évolution. Sur cette évolution, on a vu, première chose, environ une taille de fleurs diminuée de 10%. Donc ça, c'est quand même un indice que ça va moins bien attirer les pollinisateurs. Une réduction de la production de nectar de 20%. Ça, c'est très important, énorme. Parce que ça, c'est la récompense, précisément, dans ce qu'on a dit tout à l'heure sur les interactions plantes-pollinisateurs. C'est la récompense pour les pollinisateurs.
Et donc, vous disiez, c'est 20% de nourriture en moins pour les pollinisateurs. Donc.
Absolument. Mmh. Et lorsqu'on fait des tests de choix, peut-être on y reviendra, on voit que les bourdons préfèrent les plantes anciennes aux plantes actuelles.
Alors, vous avez également observé les fruits de cette plante et vous avez comparé le nombre de graines que l'on trouvait dans les fruits issus de pollinisation libre et ceux issus d'autopollinisation. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça, comme information ? Oui, à vous, Pierre-Olivier.
L'idée, c'est qu'on s'attendait à ce que la production de graines sans pollinisateur, par autofécondation, soit facilitée. En fait, c'est une mesure de l'habilité, de la capacité de la plante à produire des graines sans pollinisateur, par autofécondation. Donc, on s'attendait à ce que ce soit plus important chez les descendants que chez les ancêtres. Une tendance qu'on a observée, mais qui ne s'est pas avérée significative. Mais la tendance est là quand même.
Alors, donc, pour étudier les interactions avec les insectes pollinisateurs, vous avez également mené une expérience donc, de préférence, c'est ce dont vous parliez, avec des bourdons. Alors, comment vous avez procédé, Sanson ?
Donc, on avait des cages insectes, en fait, et on amenait nos pots dans ces cages. Donc, on a répliqué ça plusieurs fois, mais on prenait 10 ancêtres et 10 descendants de la même localité. Et on les disposait aléatoirement dans la cage. On avait une ruche de bourdons dans cette cage aussi. Et on ouvrait la ruche et on regardait où est-ce que les bourdons allaient. Donc on suivait un bourdon et on observait quelle plante il préférait ou pas, sur quelle plante il allait butiner ou pas.
Et donc, quelles sont les préférences du bourdon ?
Et donc, le bourdon préfère les ancêtres aux descendants, effectivement. Et ça, c'était quand même assez chouette parce que ça montrait que, bon, on a des différences de traits, mais on aurait pu se dire, bah, c'est rien, ça change pas grand-chose pour les pollinisateurs, finalement, ils ne voient pas la différence. Ben, là, on montre que si, ils voient bel et bien la différence.
Mais là, vous l'avez fait avec un bourdon. Dans la nature, il y a plusieurs autres pollinisateurs. Est-ce que c'est pas possible qu'ils aient pas tous les mêmes préférences et que cette évolution morphologique chez la pensée, elle convienne mieux à d'autres pollinisateurs, Pierre-Olivier ?
Alors, on a quand même des traits, les traits de récompense. Ça, je veux dire, tous les pollinisateurs viennent chercher de la nourriture. Un pollinisateur qui choisirait une fleur sans récompense, alors il y a des techniques de triche dans la pollinisation, mais c'est autre chose. Donc, a priori, en plus, on a une espèce qui est franchement adaptée à la pollinisation par les pollinisateurs à longue langue type bourdon. On a un ensemble de traits qu'on a vu évoluer, la taille de la fleur, le nombre de guides, etc. Donc, a priori, on est quand même sur une diminution, sur des traits de diminution d'interaction avec des pollinisateurs généralistes.
Et est-ce qu'on peut imaginer aussi que la morphologie des pollinisateurs, elle évoluerait à son tour pour s'adapter à cette évolution des fleurs, Sanson ?
On pourrait faire cette hypothèse. Le fait est que, comme le disait Pierre-Olivier, on est sur une plante qui est pollinisée par des pollinisateurs généralistes. Donc, si cette fleur connaît cette évolution et pas une autre plante de la communauté, il y a plus fort à parier que le pollinisateur se reporterait sur d'autres plantes de la communauté qui n'auraient pas subi cette évolution. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le pollinisateur, après... il n'y a pas eu d'études en fait, qui ont montré l'évolution des pollinisateurs, leur système de prise alimentaire. Donc, on pourrait faire cette hypothèse. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus parcimonieux, quand même, malgré tout.
Alors, donc, cette étude, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est ce que je disais, c'est que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Cette adaptation des plantes qu'on pourrait croire salutaire n'est pas une bonne nouvelle, puisque finalement, donc, elle s'adapte à la raréfaction des bourdons, mais cette adaptation fait qu'elle les attire moins. Donc, il y a des conséquences sur la population d'insectes et sur les chaînes trophiques.
Alors, effectivement, le premier, bon, il y a plusieurs implications pour notre étude, mais la première chose, c'est que, bon, on a fait l'hypothèse que le déclin des pollinisateurs avéré avait créé cette pression de sélection pour plus d'autofécondation chez l'espèce. En retour, l'espèce produit moins de nectar, donc devient moins nourricière pour les pollinisateurs, ce qui pourrait encore aggraver
le phénomène.
Bien sûr, on parle d'une espèce, dans la nature, c'est beaucoup d'espèces, mais il n'y a pas de on peut imaginer que ce qui s'est passé là, s'est passé aussi sur d'autres espèces. Donc ça, on est sur l'interaction, à mon avis, c'est le résultat le plus fort, c'est-à-dire qu'on est dans une... On assiste à la rupture de l'interaction plante-pollinisateur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour l'espèce elle-même, ça lui permet de produire des graines, mais si elle va vers l'autofécondation totale, c'est jamais des bonnes nouvelles. On sait d'après la littérature que les espèces qui se sont engagées dans cette voie-là n'ont pas d'avenir évolutif. Alors là, on parle de temps beaucoup plus long. Hein. N'ont pas d'avenir évolutif très très long. Voilà. Et donc la question de savoir si cette évolution serait réversible reste ouverte. Si on en croit la littérature, on aurait tendance à répondre non. Moi, mon point de vue est plus nuancé, sachant qu'on a encore de la variation. Dans l'espèce, toutes les plantes ne s'autofécondent pas à 100%. Donc, on peut imaginer que si les conditions de pollinisation redeviennent bonnes, on pourrait imaginer que l'espèce évolue vers plus d'allofécondation, etc. Voilà, il y a un gros si quand même.
Hein. On connaît des plantes, vous y avez un peu réussi, mais on connaît des plantes qui ne fonctionnent que par autofécondation ou pas ?
Oui, bien sûr. C'est l'exemple de l'espèce, la souris, l'espèce modèle chez les plantes, Arabidopsis thaliana, qui était une petite...
L'arabette des dames.
Oh, c'est joli.
Alors, cette étude, elle a été faite sur... Enfin, vous avez constaté une évolution sur un temps assez court, c'est moins de 40 ans finalement. Est-ce que vous vous attendiez à constater de telles différences ou ça a été une surprise pour vous, Samson ?
L'évolution rapide est quand même quelque chose qui maintenant a été bien documenté. C'est assez récent en évolution d'imaginer des changements rapides, mais parce que Darwin voyait ça comme quelque chose d'infinitésimal, c'est-à-dire des tout petits changements imperceptibles en fait à notre échelle totalement imperceptible. On sait maintenant qu'en 5 à 10 générations, il est possible d'évoluer s'il y a de la variabilité au sein de la population. Donc avoir de l'évolution n'était pas une surprise. En revanche, la taille d'effet et le changement aussi important, 20% de nectar en moins, des choses comme ça, et le fait que ce soit concordant entre nos quatre localités, ça c'était quelque chose qui était assez fort, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une pression de sélection qui est généralisée sur l'ensemble de notre territoire, qu'on étude, là en l'occurrence le nord du bassin parisien, et qui entraîne la même réponse chez tout le monde, donc qui est assez fort, quoi.
Alors, donc cette étude, elle est sortie juste avant les fêtes et vous avez eu vraiment beaucoup de presse. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça provoque ce type de réaction, Pierre-Olivier ?
Alors, on va faire les modestes.
Non, pas du tout.
Non, je pense que la logique médiatique étant la logique médiatique, je pense qu'on avait une histoire simple à raconter qui avait du sens, notamment par rapport à l'actualité, c'est-à-dire quand même le déclin des pollinisateurs, ça parle à tout le monde. Là, on expliquait quand même qu'en réponse, les fleurs évoluent et éventuellement, ça pourrait aggraver ce déclin des pollinisateurs. Derrière le déclin des pollinisateurs, il y a les services de pollinisation aux cultures, donc l'agriculture quand même. Voilà. Mais en tant que en tant que celui qui a dirigé les recherches, je voudrais signaler que ce projet n'a jamais été financé par un financement vrai. Voilà. On avait un premier résultat dans les années 2014 qui nous laissait entendre qu'on devait observer ça. On l'avait vu sur une population de Bourgogne, mais c'était moins bien fait, etc. Bon. Donc moi, à partir de ça, j'ai demandé des financements que je n'ai jamais eu. Donc j'ai financé par des petits bouts de contrat et j'ai eu la chance de croiser Sanson qui pouvait avoir un financement doctoral de son école, l'École Normale Supérieure à Paris. Donc on a pu faire ce travail qui, me semble, a du sens et rentre en résonance avec les préoccupations de la société.
Oui, complètement. Il y a même presque la rupture d'un cliché bucolique, quoi. C'est la fin des interactions plantes. Et donc, vous, pour un premier papier, alors j'imagine que c'était, ça pouvait être surprenant, peut-être, alors.
Ça a été surprenant par l'emballement, effectivement. Au début, on reçoit quelques coups de fil et c'est assez gratifiant. Et moi, je trouvais ça important que ça puisse parler au grand public. Là, maintenant, ça fait donc maintenant deux ou trois semaines que le papier est sorti. Et on a encore quelques sollicitations. Et c'est vrai que c'est assez... Moi, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça, pas à ce point-là. Et c'est assez exigeant aussi. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Et je pense que c'est notre rôle aussi de montrer ce qu'on fait, de sortir un peu de notre labo.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Allume la Science. C'était passionnant. Et on vous accueille quand vous voulez pour de prochains papiers.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et j'accueille maintenant notre invitée des trois dernières minutes. Elle est responsable relations éducation à la MGEN et elle nous présente une conférence organisée avec la faculté d'éducation qui aura lieu le 24 janvier prochain à 17h sur le thème de la santé mentale des adolescents. Géraldine Combes, bonjour.
Bonjour Julie.
Et bienvenue dans Allume la Science. Alors pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce partenariat avec la faculté d'éducation, dans quel cadre ça se passe ?
Oui, tout à fait. Donc c'est un cycle de 5 conférences débats hein, qui sont largement ouvertes sur l'année scolaire glissante, là, 2023-2024. Ce sont des débats qui vont toujours être en lien avec des enjeux sociétaux actuels, hein, l'école publique, l'innovation, l'expérimentation. Et en fait, la faculté d'éducation, la CASDEN, les CMA Occitanie, la MAIF et donc MGEN sont soucieux hein, de promouvoir les valeurs émancipatrices et citoyennes qui sont portées par l'école de la République, hein, mais également par l'éducation populaire et l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans le cadre de ces conférences, ils s'associent pour interroger des questions éducatives et sociétales et qui vont être ouvertes largement hein, à un public, on va dire, d'initiés, mais également plus largement à des étudiants et à toute personne ayant envie de venir écouter ces conférences qui sont toujours très riches en enseignement.
Alors donc la conférence dont on parle, qui aura lieu le 24 janvier, donc, elle porte sur la santé mentale des adolescents. Pourquoi la MGEN a choisi ce thème-là en particulier ?
Alors vous imaginez qu'en tant que première mutuelle des agents de la fonction publique d'État, MGEN reconnaît hein, l'importance de cette question de la santé mentale. Cette santé mentale qui est devenue un enjeu majeur hein, de la santé globale. Et donc, dans ce cadre-là, on sait que l'étape de l'adolescence requiert toute notre attention. Et c'est pour cette raison que nous avons invité Robert Bress pour venir nous parler de cette question de la santé mentale chez les adolescents.
Parfait, vous faites une transition parfaite. Donc justement, le conférencier s'appelle Robert Bress. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette personne ?
Oui, tout à fait. Donc Robert Bress est un psychiatre qui voyage, je dirais, au pays des adolescents depuis plus de 30 ans. Il est impliqué largement dans la maison des adolescents, puisqu'il en a été même, j'ai envie de dire, il a été présent hein, dans tout le projet de construction de cette structure hein, sur Montpellier. Et il pose la question de l'adolescence, Robert Bress, et de ses expressions parfois inquiétantes comme un défi culturel, finalement, comme un enjeu sociétal, social même, qui va mobiliser l'ensemble de la cité et pas uniquement des spécialistes et le champ médical, on va dire, autour de ces adolescents en souffrance.
Est-ce que vous diriez, j'ai une petite minute encore, est-ce que vous diriez que le Covid et les confinements ont été un coup de projecteur un peu sur la santé mentale des jeunes dont on ne parlait pas beaucoup avant ? Alors c'est peut-être moi qui en entendais moins parler, mais est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là ?
Oui, complètement. Hein, les chiffres sont parlants. Hein, là, il y a une vraie dégradation de la santé mentale, alors globalement, hein, de la population et des adolescents en particulier, effectivement. Et tout ce qui est, enfin, ce qui est très intéressant dans la façon de voir les choses chez Robert Bress, c'est qu'il prend un peu les, il prend un peu les choses à contre-pied et en fait, il s'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'un adolescent finalement va bien, quelles ont été les rencontres qu'il a pu faire dans sa propre histoire qui ont pu le construire et qui ont pu lui permettre de devenir un adulte heureux finalement. Et c'est de cette manière-là qu'il va aborder cette question de la santé mentale. Hein. Comment l'adolescent va-t-il rentrer dans sa propre histoire? Comment il va devenir propriétaire de sa propre vie et de sa parole? Et ça va être passionnant, voilà, c'est... Alors, il va donc tenter de répondre et de nous donner des éléments de compréhension hein, sur ces déterminants de la santé mentale des jeunes et également sur ces enjeux de la santé mentale des adolescents pour la société tout entière.
Donc on rappelle, donc c'est le 24 janvier prochain à 17h, donc c'est à la faculté d'éducation, c'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est ouvert à tous?
Oui, c'est ouvert à tous, pas besoin de s'inscrire et il y aura même la possibilité de suivre la conférence en visio.
Très bien, alors je rajouterai le lien sur la page de l'émission dans ce cas. Merci beaucoup Géraldine Combes et n'hésitez pas à nous faire signe quand la MGEN organise d'autres événements alors.
Avec grand plaisir, merci à vous et bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet et Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.